Je ne pourrais croire qu'en un dieu qui saurait danser.
Cette musique, facilement reconnaissable, mais dont les jeunes générations ignorent l'origine, c'est la Messe pour le temps présent. Une musique de Pierre Henry, composée pour un ballet de Maurice Béjart en 1967. Ce dernier a signé l'entrée de la danse dans la cour d'honneur du Palais des Papes au Festival d'Avignon. Si ce fut une révolution pour le festival, personne ne s'offusqua de l'irruption d'un art du corps au sein d'une ancienne demeure papale. Et pourtant, le corps, pour les catholiques, n'a pas toujours eu bonne presse, même s'il n'est plus aussi dénigré que l'opinion publique séculière le laisse trop souvent croire.
Depuis que nous avons eu connaissance des catéchèses du mercredi que Jean-Paul II a donné pour une théologie du corps, eh bien on voit bien que la question du corps, elle est en réalité au cœur de notre foi dans l'incarnation du Fils de Dieu. Mais au cours de l'histoire, c'est vrai que la considération par la communauté chrétienne du corps a parfois été problématique.
Si la distinction de l'âme et du corps a toujours posé problème aux chrétiens, c'est que le christianisme n'en est pas l'inventeur. Platon, déjà, par un jeu d'assonance propre aux Grecs, assimilait le corps, soma, au tombeau, séma, dont se libérerait l'âme après la mort. Explication.
Chez Platon, il y a un conflit, on a parlé d'un dualisme entre le corps et l'âme. Il dira que chaque plaisir cloue l'âme au corps, qui est donc un tombeau, ce qui emprisonne notre âme, la dimension la plus noble de nous-mêmes. En même temps, déjà chez Platon, il faut nuancer. Il est vrai qu'il y a un dualisme, mais Platon admet que le corps puisse être le lieu d'une ouverture à la dimension intelligible, comme par exemple avec l'expérience de la beauté sensible. Le choc éprouvé à la vue d'un beau corps renvoie à une expérience qui, pour l'âme, aurait eu lieu avant sa venue dans un corps. Donc c'est quand même à partir du corps qu'une ouverture peut se faire, dans certains cas, en direction de l'intelligible. Donc le dualisme est quand même à nuancer, mais il y a un dualisme.
Le dualisme, ou stricte séparation de l'âme et du corps, était donc en place bien avant les philosophes d'inspiration chrétienne. Et saint Augustin, qui doit beaucoup à Plotin, fondateur et recteur de l'école néoplatonicienne de Rome, ne semble pas s'en écarter.
Augustin nous dit que le corps, c'est la partie la plus vile de l'homme. Par exemple, dans le traité du libre arbitre, ce que veut dire Augustin, c'est que l'âme peut éprouver un attrait pour le corps qui la détourne en fait des réalités éternelles et de Dieu, dans la jouissance et la possession duquel résiderait notre bonheur. Pour Augustin, la conséquence du péché, c'est la concupiscence, c'est l'inclination vers les choses terrestres. Et cette inclination-là nous fait rechercher le plaisir pour lui-même, d'où une vision souvent négative de la sexualité.
Aucun doute, du corps tombeau de l'âme au corps temple de l'esprit, le christianisme hérite bien de la conception platonicienne dualiste. Mais il ne tardera pas, avec Thomas d'Aquin, à s'en éloigner.
Chez saint Thomas d'Aquin, l'homme est décrit comme une unité substantielle d'âme et de corps, donc c'est vraiment une unité d'âme et de corps. Et Thomas d'Aquin dira même qu'il y a une convenance vraiment essentielle entre l'âme et le corps. Sinon, l'homme serait un ange, ce qu'il n'est pas, puisque l'ange est un pur esprit. Et la mort, donc la séparation de l'âme et du corps, cette séparation, elle n'est pas une délivrance. La mort est la conséquence du péché, donc dans cette brisure, il y a toujours quelque chose de tragique. Et rappelons d'ailleurs que le christianisme ne croit pas seulement en l'immortalité de l'âme, mais en la résurrection des corps. Et donc, par là, on ne peut pas bien évidemment dire que le christianisme ne ferait que reprendre le dualisme de certains philosophes de l'Antiquité.
Mais l'histoire n'étant pas faite que de progrès, sinon en pente douce, dirait Victor Hugo, les relents d'augustinisme se font longtemps ressentir, notamment dans la philosophie moderne.
Par exemple, au XVIIe siècle, avec le courant janséniste, Pascal parlait de guerre entre l'âme et le corps, donc la question de la concupiscence est toujours présente. Néanmoins, déjà avec l'humanisme de la Renaissance, on voit que l'art, la manifestation par le biais d'œuvres, de réalités intérieures, va être revalorisée. Il faudrait aussi mentionner le rapport que le christianisme a pu avoir justement avec toute la théologie de l'image aussi. L'idée est toujours la même, à savoir si le corps, si l'image, si le visible peuvent être réhabilités, c'est parce que finalement Dieu s'étant fait chair, ayant pris un corps, on peut s'en tenir à une vision négative du corps.
Si l'incarnation interdit aux chrétiens de considérer le corps comme un poids mort, il faudra attendre le XIXe siècle et la philosophie allemande pour qu'apparaisse une véritable pensée positive du corps.
C'est sans doute la phénoménologie qui a révolutionné notre rapport, en tout cas en Occident, au corps, puisque la phénoménologie finalement va distinguer le corps au sens de l'organisme étudiable par la science, la structure matérielle, et le corps sujet ou la chair, c'est-à-dire le corps avec toute sa profondeur, parce que le corps c'est aussi le corps vécu, c'est une manière d'être au monde, d'entrer en relation avec les autres. Et je crois que les auteurs en France, par exemple, comme Merleau-Ponty, comme Michel Henry, ont vraiment aidé à la reconnaissance d'une véritable pensée positive du corps. Et même Jean-Paul II, qui avait quand même consacré une thèse à Max Scheler, qui est l'un des représentants de la phénoménologie allemande, Jean-Paul II qui s'intéressera tellement au corps et à la réhabilitation du corps et à son sens aussi spirituel, eh bien doit à cette tradition. Donc je dirais que c'est vraiment, je pense, avec la phénoménologie que enfin on s'efforce de dépasser l'opposition entre corps-objet, corps-sujet, entre le corps et l'esprit. On essaie d'envisager le corps comme possédant une profondeur qui fait qu'il n'est pas que une matérialité dont il s'agirait de se dégager, de se délivrer au profit d'une dimension spirituelle.
Se dégager d'une vision dualiste du corps pour passer d'un corps pesant à un corps signifiant, c'est se contenter, dans leurs échanges autour du corps, le philosophe et la danseuse.
Le corps, il est parlant, il est porteur d'une parole, porteur d'une intériorité, et donc capable, là j'emprunte l'expression à Jean-Paul II, de transférer dans le visible la réalité invisible, le mystère. Et je crois que Mireille Nègre a vraiment essayé de rendre au corps sa profondeur spirituelle et de l'exprimer surtout, et de l'exprimer. Mmh.